Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, en tout cas salutations, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez notre émission. Vous êtes sur Radio Syllabe et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission qui s'intéresse aux faits et objets de littérature. Ça y est, on y est, c'est la rentrée des crachoteuses, buveuses de thé et friandes de bouquins. Oui, il y a aussi des crachoteurs, mais en l'occurrence, on enregistre cette émission en non-mixité pas choisie, donc on va accorder tel que la réalité toute matérielle nous l'impose. Alors voyons, comment ça va ? T'es prête pour la rentrée ?
Oui, on adore faire de la radio avec un masque sur le nez, c'est vraiment génial.
Ah ça, y a rien de plus respirant et vivifiant, je trouve. Bon, est-ce que t'es prête pour parler de la littérature de la rentrée ? Faire la liste de toutes les sorties, de tout ce qui a attendu la fin du confinement pour être enfin sur les librairies et les étagères ?
Ah ouais, je me suis fait toutes les rediffs de la grande librairie, là je suis prête.
Pour autant, on va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on a plutôt préféré de parler d'une actualité toute locale. En effet, le mois dernier se tenait la seconde édition du festival Dangereuses Lectrices. Tu connais ?
Je crois que j'en ai entendu parler, ouais.
Alors l'an dernier, ça nous parlait de sorcières et cette année, on a plutôt tourné... le thème qui était choisi, c'était manger. Ça te parle ?
Oui, j'adore manger.
Et manger des livres, ça on connaît.
Ouais.
Mais pour le moment, c'est un tout autre menu qu'on va vous proposer puisque cette fois-ci, on va pas vous refaire une rétrospective sur le festival. Fallait y être ou alors il y a peut-être d'autres émissions sur Syllabe qui en ont parlé, qui sait ?
Peut-être.
En tout cas, nous, on a plutôt choisi en fait de traiter les questions que ce festival nous avait inspirées, de regarder pousser ces petites graines qui avaient été insufflées au cours des conférences et des rencontres humaines et littéraires. Toi, c'était quoi, Marion, ce petite graine qui pousse ?
Une petite graine de courge.
Tu ne veux pas nous en dire plus pour l'instant ?
Non.
Eh bien, quant à moi, je vais plutôt vous parler de la représentation des gros dans la littérature en parlant d'un petit livre anti-grossophobie.
Moi, je vais vous parler de deux livres qui ont été mis en avant au Festival Dangereuses Lectrices. Et le premier, c'est une BD qui a été réalisée à deux mains par Mademoiselle Caroline et Matou. Vous avez peut-être déjà croisé leur travail sur Internet. Le deuxième s'appelle « On ne naît pas grosse ». Il a été écrit par Gabriel Dédier, qui est aussi l'auteur de la préface de la BD « À volonté ». Donc « À volonté », qui est sous-titré « Tu t'es vu quand tu manges », donne le ton dès la couverture, en fait, parce qu'on y voit deux personnages en couleur, attablés en terrasse avec un verre à la main, le regard tourné vers une silhouette noire filiforme qui occupe le premier plan, qui va écraser un peu de sa hauteur et de sa minceur les corps recroquevillés des deux femmes qui affichent un visage défait. Et donc, dès la couverture, on est poussé comme ça à s'identifier à ces deux personnages qu'on reconnaîtra ensuite comme étant des avatars des deux autrices, hein, Mademoiselle Caroline et Matou. Et la silhouette, au premier plan, de toute façon, n'a pas vraiment de visage, donc on ne peut pas s'y identifier. Et c'est justement ça l'idée explicite de cette BD, hein, c'est de plonger le lecteur et la lectrice dans, je cite, « une journée de grosse », en mêlant plein de contextes différents dans lesquels, finalement, il fait vraiment pas bon être gros, que ce soit dans la rue, au taf, à la salle de sport, chez le médecin, mais aussi en fait dans n'importe quel environnement qui va véhiculer les normes de représentation du corps parfait, et donc mince, dans la société. C'est-à-dire en fait partout, hein, comme on s'en rend compte au fil de la BD. Parce qu'il n'y a pas que les représentations visuelles publicitaires par exemple, il y a aussi tous les regards, toutes les remarques, les commentaires, les jugements qui visent les deux femmes tout au long de leur journée pour leur rappeler qu'elles ne sont pas dans la norme. Et parfois de façon vraiment violente, je vous spoile pas, mais il y a des passages vraiment salés où vous allez rester bouche bée en mode « What ? C'est chaud !» Et bien sûr, on comprend qu'une seule journée, une seule vraie journée ne peut pas accueillir autant de grossophobie. Hein. C'est-à-dire que l'accumulation, elle est assez perceptible, mais je pense que ça retranscrit bien le fait que c'est assez difficile de passer une journée fun, une journée sympa, sans avoir à scoltiner deux ou trois moments de perte de foi en la nature humaine quand t'es gros. Parce que franchement, à la lecture, c'est l'effet que ça fait, ça vous fait perdre foi en l'humanité. Alors bien sûr, il y a le genre de remarques qu'on peut tous supposer exister, les sales grosses, les injurieuses, les commentaires de connards et de connasses, quoi. Mais il y a aussi tous ceux des gens qui sont bien intentionnés, hein, qui, comme dans la chanson de Brassens, finalement, sont pas plus empathiques que les autres. Et finalement, c'est ce qui fait parfois encore plus mal, c'est ce qui est parfois encore plus blessant. Alors, après, une bonne partie de la BD, comme ça, passée dans une journée type où se succèdent les marques de discrimination et autres raisons d'avoir envie de se pendre, les deux autrices tentent de fournir un aperçu de la manière dont tout ça les impacte. Et le but, c'est qu'à la lecture, ça vous impacte, que pour une heure, vous viviez une journée type, un peu corsée, certes, en mode café expresso qui retourne un peu le bide, mais une journée type quand même d'une victime de grossophobie, d'une grosse, quoi. Et cette position de victime, elle est très bien mise en scène. On ne peut pas s'empêcher de s'énerver, de lever les yeux au ciel ou de soupirer avec lassitude devant tout ce à quoi une grosse a droit pendant sa journée. Un lot de commentaires et de remarques aussi inconvenants que non sollicités, parce que ça, c'est quand même le truc principal. Et c'est ça qui est drôle, c'est que la plupart des gens se sentent apparemment obligés de donner leur avis, hein, de donner leur avis sur leur apparence physique, hein, coucou les joies d'être une femme, obligés de leur donner des conseils pour maigrir, obligés de les rassurer sur leurs autres atouts intérieurs ou extérieurs, etc., etc. Bref, la longue cohorte des commentaires bien intentionnés ou non qui feraient fulminer n'importe qui. Et on est face à une accumulation, une concentration des manifestations de la grossophobie au cours de cette journée fictive. Ça produit un sentiment de malaise qui réussit, qui retranscrit bien la colère et l'injustice qui accompagnent le vécu des autrices. Mais même si cette position de victime elle est insupportable à vivre, moi, ça m'a laissé un goût de trop peu, dans le sens où la BD, finalement, elle reste un peu trop cantonnée dans son statut de témoignage. Finalement, les causes de la grossophobie ne sont pas tant fouillées et on y trouve pas beaucoup de clés de lutte, quoi. Même s'il y a des choses intéressantes, comme le fait, par exemple, que les autrices avouent ne pas avoir réussi à se dessiner aussi grosses qu'elles le sont dans la réalité, mais finalement, c'est pas très grave parce qu'elles ont pris un parti pris dans la BD qui a été de décaler le point de référence et de, elles, se dessiner peut-être moins grosses qu'elles le sont en réalité, mais de dessiner finalement les autres femmes qui vont véhiculer la référence de la minceur et de la maigreur, vraiment comme des fils de fer pour faire ressortir finalement cette discrimination qui les sépare, quoi. Mais si vous voulez aller plus loin et finalement vous encanailler un petit peu plus, vous pouvez aller lire ce deuxième livre dont je vais vous parler, le livre de Gabrielle Dédier, qui s'appelle « On ne naît pas grosse ». Et c'est Gabrielle Dédier qui a écrit la préface de la BD « À volonté ». Donc je vais vous lire un petit bout de la préface. Longtemps, je me suis torturé le corps et l'esprit parce que je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait à moi. Pourquoi étais-je grosse? Qu'avais-je fait de si terrible pour mériter pareil fardeau? Le poids, on le porte d'abord physiquement. Cependant, la charge émotionnelle que ces kilos perçus comme superflus impliquent est grandement relativisée, moquée, voire ignorée. La première forme de souffrance des grosses et des gros, c'est la culpabilité. Culpabilité de ne pas savoir ne pas être gros. Culpabilité d'être soi-disant dénué de volonté. Culpabilité de ne pas leur ressembler. Mais ressembler à qui? À ces gens parfaits qui, en réalité, n'existent pas? Donc voilà, ça c'était un extrait de la préface de À volonté. Et je vais vous parler du livre de Gabrielle Dédier juste après la chronique de Cécile.
Deux chroniques pour le prix d'une, tellement de générosité.
Vous avez écouté Good as Hell par Lizzo.
Le livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, je l'ai découvert sur l'étal de la librairie La Nuit des Temps, au cours du festival Dangereuses Lectrices. Ce n'est nul autre qu'un petit fascicule d'une centaine de pages publié chez Librio. Ce livre a pour titre « Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire ». Il a été coécrit par Daria Marx et Eva Pérez-Bello. Toutes deux sont des militantes féministes et pionnières de la lutte contre la grossophobie en France. Tant et si bien qu'elles ont fondé le collectif Gras Politique. Car oui, comme vous le savez, tout est politique, et le gras n'échappe pas à la règle. Et ce tout petit livre, qui ne pèse pas bien lourd dans ma main, il est justement là pour vous parler de ça, de cette dimension politique cachée dans le vécu gros, pour vous expliquer ce qu'est la discrimination méconnue, sinon niée, qu'est la grossophobie. Petit point sur le contexte de parution du livre. Gros n'est pas un gros mot est paru en 2019. À ce moment-là, le mot grossophobie vient tout juste de rentrer dans le dictionnaire. Oui, juste le petit Robert. Et le livre témoignage de Gabriel Dédi n'est paru que depuis 2 ans. La question est encore toute fraîche en France. Il reste tout à explorer, à conquérir et à construire.
Pourquoi ce titre ? Gros n'est pas un gros mot. Effectivement, tout le monde sait que con, c'est déjà une insulte, mais gros con ou gros connard, là on rajoute du level up quand même. Et puis même si on va chercher dans l'étymologie, eh bien en fait gras, ça vient de crassus du latin qui veut dire grossier. Et même si on regarde du côté d'obèse, on trouve le participe passé obésus de obsédéré, qui signifie consommer, dévorer, mais aussi d'après Gassio, qui a le sens de saper, éroder. Donc on n'est pas non plus sur une source vraiment très folichonne, donc il y a vraiment quelque chose à reconquérir de ce côté-là pour redonner à l'adjectif gros sa place de qualificatif en le déchargeant en fait de ses connotations péjoratives.
Petit florilège de remarques. Les gros n'ont qu'à arrêter d'aller chez McDo tous les jours. Et puis un peu de sport, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je ne comprends pas. C'est quand même pas compliqué de faire un régime. Moi, j'ai perdu 2 kilos après les fêtes en faisant une cure d'eau pétillante et d'extrait d'abricot.
2 croissants ? Vraiment ?
Sa mère lui donnait 3 yaourts au goûter quand il était bébé. 3 yaourts ? Pour un si petit enfant, tu te rends compte ?
2 croissants ? Vraiment ? Les gros agrandissent le trou de la sécu, ils coûtent cher à la société, je vois pas pourquoi je les soignerais avec mes impôts.
Moi ce qui me fait de la peine, ce sont les enfants gros. Les pauvres partent mal dans la vie. Et puis quelle honte pour les parents, incapables de gérer leurs gamins. On nous répète qu'on est de plus en plus de gros en France, mais moi j'en vois pas à la télé par exemple, dans les magazines. À croire que les obèses ne sortent pas de chez eux.
2 croissants ? Vraiment ? Mais t'as qu'à te faire opérer. Un jour à l'hôpital, et voilà, c'est réglé. J'ai une collègue qui l'a fait, et elle a perdu 90 kilos en 12 semaines.
Oh, moi les grosses, je peux pas. On trouve pas le trou de toute façon. Mais elles sont gourmandes, il paraît. Donc ça peut dépanner quand on a vraiment envie. Et puis quel rebond qui a arrêté les parents, incapables de gérer leur gamme. Et puis un peu de sport, ça n'a jamais fait de mal.
De croissants, vraiment.
Je ne comprends pas. C'est quand même pas compliqué de faire un régime. Moi, j'ai perdu 2 kilos après les fêtes en faisant une cure d'eau pétillante et d'extrait d'abricot.
De croissants, vraiment.
Au-delà de cette réappropriation des mots, les autrices se donnent pour but, je cite, d'informer, d'expliquer et de déconstruire les clichés qui entourent les gros pour poser les bases nécessaires à une prise de conscience collective et au changement des mentalités. Ceci étant posé, comment s'y prendre ? Par où commencer ? Déjà en déconstruisant. Et oui, si je dis qu'il y avait tout à construire, on a d'abord besoin d'un petit coup de ménage et de démolition, histoire de remettre tout à plat et de repartir sur des bases saines. On va donc passer à la broyeuse un petit peu de stéréotypes, de préjugés et d'idées reçues. Au menu de la casse, j'annonce. Les gros se le seraient par flemme ou par manque de volonté, voire les deux. Bah oui, c'est tellement plus simple de pas regarder en face l'échec monumental de la prise en charge médicale ou sociale des personnes grosses
Autant leur reporter la responsabilité dessus, à une échelle tout individuelle. Oui, c'est ça, fantasmons-les, comme des gros culs et des grosses vaches vautrées dans des piscines de frites et de burgers. Pointons-les du doigt, bouh, culpabilisons-les. Ce serait dommage de pas alimenter leur mal-être et leur exclusion sociale. Ce qui nous mène à un autre point, est-ce qu'on serait pas là en train d'alimenter un putain de cercle vicieux ? Bah oui, vous êtes pas sans savoir que la dépréciation de soi, ça mène parfois à un peu de dépression. Et enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je me sens pas bien, une bonne tablette de chocolat, c'est vite fait avaler. Je vous dis pas le nombre de troubles alimentaires qui sont ainsi alimentés, jeu de mots un petit peu mésaventureux. Mais toujours est-il que c'est vraiment pas ça, en fait, qui va aider les personnes à avoir une stabilité émotionnelle et psychologique qui va leur permettre d'avoir une vie plus saine alimentairement parlant ou au niveau de la balance.
S'alimenter est un parcours du combattant, idéologiquement, émotionnellement ou financièrement. Les personnes qui souhaitent se réconcilier avec la nourriture doivent être accompagnées sur tous les plans. Les injonctions diététiques qui ne prennent pas en compte la réalité sociale, culturelle et intime sont vouées à l'échec.
Donc il y a toute cette mythologie du gros qui l'est par flemme ou par manque de volonté, par il ne se contrôle pas et il ne réussit pas à être maître de son appétit ou de ses besoins. En vrai, si on regarde à peu près les chiffres, les causes de l'obésité sont multiples. Du fait, par exemple, de facteurs de la pauvreté. Effectivement, quand on est une femme célibataire qui a un budget très serré, eh ben, on va peut-être aller plus facilement acheter des plats tout préparés, congelés, qui sont rapides à faire pour satisfaire toute la famille, plutôt que de les cuisiner des légumes bio qui coûtent la peau du cul.
Un autre point qui est abordé dans cet ouvrage, l'obésité, c'est plurifactoriel. Que ce soit au niveau de la cellule familiale, il y a plein de choses qui se jouent. Comment les parents vont nous renvoyer un regard sur notre corps, sur le rapport au contrôle. Aussi, toutes ces cultures des régimes qui sont insufflées à un âge de plus en plus jeune. Il y a aussi tout un volet au niveau de l'éducation purement alimentaire, parce que oui, bien manger, c'est savoir faire bien à manger, cuisiner, sélectionner des produits, et ça s'apprend.
Pléthore de témoignages d'enfants qui ont leur rapport à la nourriture et à la faim qui sont bousillés, car les parents ont essayé de les mettre au régime dès le plus jeune âge pour contrôler dès le départ, et on se retrouve avec des enfants qui ne savent pas distinguer des envies de type « Oh, j'ai un petit creux, j'ai une gourmandise », de la faim. Mmh. Et du coup, ces enfants sont complètement déconnectés de leurs besoins alimentaires, ils ne savent plus reconnaître quels sont leurs besoins, puisqu'on aura appris dès le plus jeune âge que leur corps et leur cerveau leur mentaient, en fait.
Ouais.
Et donc, c'est un gros travail que font les nutritionnistes qui ne sont pas pro-régime, de reconnecter ces patients avec leurs vrais besoins et leur écoute du corps. Car effectivement, c'est un autre point qu'aborde le livre. Les régimes, les chirurgies, ce sont des fausses solutions.
Et ouais.
Gabriel, dont tu parlais plus tôt, il faut que je retrouve son nom de famille quand même. Gabriel Dédier ne manque pas dans son livre de faire savoir que quand on fait des médicaments, on a un taux d'erreur qui est très très bas. C'est contrôlé. Les régimes, les taux d'échec sont hallucinants. Mais là, pas de raison de les retirer du marché pour autant. Mmh. Les chirurgies, c'est pareil. Les chiffres qui nous sont donnés, c'est que sur 45 interventions par an, une liste d'attente de 450 000 patients, 85% des opérés sont des femmes. Est-ce qu'on est là pour des régimes ou est-ce que c'est une pression sociale qui fait de l'injonction à la minceur ? Quand tous les patients se retrouvent avec des femmes, on peut quand même se poser la question.
Ouais.
D'autant que les chirurgies sont globalement peu efficaces sur la perte de poids et en plus développent des troubles psychologiques importants, peuvent même mener au suicide lorsque cette solution de la dernière chance se révèle être un échec. Bien entendu, on n'a pas encore parlé de tout ce qui est de l'ordre de la violence subie, car effectivement, être gros, c'est s'en prendre plein la gueule. Ce sont les petits regards qu'on lance dans le bus en priant pour qu'une personne grosse ne s'assoie pas à côté de soi. C'est du coup le gros qui voit ces regards et qui se prépare à subir ces petites attaques silencieuses quand elles ne prennent pas de la forme plus verbale avec ces gens qui s'inventent un nutritionniste le temps d'une journée pour vous commenter votre repas au restaurant ou même dans la rue. Toujours un plaisir. Et puis bon, quand c'est la famille, on n'en parle même pas. Les espaces publics et de manière générale notre système de santé publique ne sont pas du tout faites pour prévoir la prise en charge des personnes grosses. Donc ce sont les fauteuils trop étroits, ce sont les bancs trop étroits également. Ce ne sont pas que des dispositifs anti-SDF, ça empêche aussi les personnes grosses de s'asseoir, c'est génial. Et puis de nos jours, rares sont les médecins qui sont équipés pour prendre ne serait-ce que la tension de leurs patients gros. Mmh. Quand on sait que les pourcentages de la population obèse ne font qu'augmenter, on se demande si on n'est pas en train de courir un petit peu à l'envers.
Et nous, les gros et les grosses, nous allons continuer à vivre, à prendre la place qui nous revient. Et à nous battre contre les discriminations que nous subissons. Certains d'entre nous maigriront, d'autres pas. Mais ce n'est pas ça qui détermine la réussite de nos vies. Le bonheur ne se mesure pas au nombre de kilos perdus. Notre corps est un champ de bataille. Nous réclamons un armistice. Nous n'arriverons peut-être pas tous à nous aimer, mais si la majorité d'entre nous peut vivre en paix, nous aurons fait un grand pas. Nous comptons sur vous pour nous aider.
À partir de là, vous l'avez compris, la lutte anti-grossophobie, ça concerne tout le monde. Ça concerne les gros et les grosses, bien entendu, première personne concernée pour défendre leurs droits, qui, grâce à l'impulsion d'acteurs et d'actrices tels que les membres du collectif Grain Politique, peuvent de nouveau créer des espaces, enfin, peuvent se créer tout court des espaces safe de parole et d'activité, pour reprendre un peu confiance en soi, mais aussi prendre conscience du caractère systémique des discriminations subies, pour enfin se mobiliser et lutter. Ça concerne également les familles, les soignants, et également les professionnels de l'éducation. Tout cet entourage, en fait, qui va accompagner les personnes gros et grosses, et qui jusqu'ici les accompagne plutôt mal. L'enjeu, c'est donc de rompre avec cette culture des restrictions alimentaires et des discours culpabilisants, et de plutôt porter un regard plus englobant sur l'ensemble des facteurs dont on a parlé plus tôt. L'éducation alimentaire, la stabilité de la cellule familiale, etc.
La lutte contre la grossophobie n'est pas la promotion de l'obésité. N'essayez pas d'être gros, vraiment, c'est pas terrible. Il n'y a qu'un gros pour supporter le harcèlement ordinaire. Les minces sont trop fragiles. L'objectif de ces pages est bien plutôt de donner envie au plus grand nombre de combattre leurs préjugés, pour cheminer demain vers une meilleure acceptation des gros au sein d'une société qui, aujourd'hui, les silencie et les ostracise, et de ce fait les condamne.
Mais on a aussi un autre changement à provoquer, c'est la responsabilité de chacun. Donc fini de rire aux blagues qui ridiculisent les gros, on arrête de se lancer dans des conseils minceurs et on arrête de dire à ses potes « Mais non, t'as un beau visage quand même
!» Ouais, il y a ça dans la BD pas mal. Ouais. Ouais.
Et bon, ce qui est super dans ce livre, c'est que bah, il est très très court, il fait moins de 100 pages, il coûte 5 euros parce que l'accessibilité d'un écrit, c'est aussi ça, faut le rappeler. Mm-hmm. Mais aussi c'est aussi un livre qui se lit tout seul. On n'est pas dans un écrit théorique universitaire. Ce sont des faits qui sont soit pris en charge par des récits, des témoignages de personnes, mais aussi qui sont repris par les autrices. Par exemple, l'histoire de ce garçon adolescent qui s'est suicidé pour ne plus avoir à subir les moqueries, ce qui donne quelque chose de très personnel. C'est-à-dire qu'on perçoit la réalité des existences qui nous sont rapportées dans ce livre, qui ne manque pas d'ailleurs de remettre en place aussi les faits, les statistiques et des prises à partie politiques fortes. Maintenant qu'on a dit tout ça, ce livre se termine peut-être par un petit guide sur comment être un bon allié, mais il y a une petite chose que j'aimerais également faire. Les gros, on en parle beaucoup, on écrit sur eux également. On les écrit, on les décrit, on les incarne dans la littérature. Quels sont les personnages gros qui vous viennent en tête ?
Obélix.
Obélix. Obélix qui est super fort, mais qui n'est pas très finaud. Heureusement qu'il y a le petit Astérix tout mince à côté de lui pour l'aider. On a également Alceste et le petit Nicolas. Donc j'ai voulu un petit peu regarder ce qui se passait pour les personnages gros dans la littérature. C'est ainsi que je suis tombée sur les écrits de Claude Fischer, qui nous a fait un super article disponible sur Percé de 33 pages sur la symbolique du gros. Je vous fais le résumé en 2-2. La figure du gros, elle est pour le moins ambivalente. Soit le gros, c'est un bon gros. Il est rond, il est rassurant, il est gentil, il est rigolo. Bon, on se moque un peu de sa gueule à ses dépens, mais il provoque le rire. C'est le gros bénin. On peut le voir sous la figure, par exemple, des grosses mamans qui font des gros câlins. Ce sont des figures qui sont plus rassurantes et plus sympas. Et c'est souvent des figures qui datent d'une époque où la maigreur est plutôt associée à des valeurs de type méchanceté, ou maladie. On dira coucou à Scrooge, par exemple, dont la maigreur représente son avarice, alors que le bon Papa Noël, lui, c'est autre chose. Pour autant, c'est pas sur une époque non plus où l'obésité est forcément bien vue, car l'obésité, la personne grosse, si on regarde le contrat social, si on se penche du côté des écrits anthropologiques, c'est aussi des personnes qui prennent plus que leur part, qui prennent trop de place, et qui ne rendent pas aux autres, qui ne partagent pas. C'est ainsi qu'on voit des figures de gros rois qui s'accaparent tout. On a aussi des gros personnages qui dévorent tout. Donc on est sur l'Ubu Roi, sur les ogres, ce genre de personnages. On pourrait aussi parler de Gargantua et de Pantagruel, qui certes sont des personnages rabelaisiens pleins de savoir et pleins de nuances, mais qui quand même sont dans une dévoration absolument écrasante. Ce qui est aussi intéressant avec l'écrit du coup de Claude Fischer, c'est qu'on voit également des gros qui se voit associé à la valeur de la force. Certains personnages gros, comme Obélix, rattrapent, on va dire, leur graisse avec leurs muscles. C'est le cas d'André le Géant dans la vraie vie, et du coup de ce brave Obélix qui, ok, il est un peu bête, mais s'il n'était pas là, la guerre contre les Romains serait un peu plus compliquée. Donc ce sont des gros que l'on peut valoriser. Qu'en est-il des gros qui ne servent vraiment à rien ? Eh bien, ce sont les gros qui représentent la flemmardise, comme on en a parlé plus tôt. Ce sont les gros qui, de nos jours, sont plutôt ceux qui ne parviennent pas à respecter le pacte de l'individu qui est responsable de sa réussite. Donc, tous ces gens qui se sont faits eux-mêmes et qui ont le pognon pour avoir un régime parfait minceur, ce sont des gros, comment dire, qui vont repousser et rejeter et qui vont provoquer une phobie absolument dévastatrice. Le bilan n'est pas très très positif, et donc j'ai fouillé un petit peu dans mes bouquins, beaucoup dans la bande dessinée, je dois le reconnaître, pour rehausser un petit peu le tableau.
Je vous propose notamment d'aller à la rencontre d'un petit livre paru aux éditions Lapin et signé Marie Boiseau. Il s'agit de Ni bon, ni mauvais, ni tout à fait le contraire. Ce livre prend des strips publiés sur le compte Instagram Marie Grognon et sont une succession de pensées et réflexions quotidiennes illustrées tantôt au noir et blanc, tantôt au crayon de couleur, et qui dépeignent d'un trait lâché et au brouillonnage maîtrisé un sentiment diffus d'amertume poétique. Bon, ça c'était le résumé un peu de Chadé, mais tout de suite, je vous propose une petite lecture pour entrer un peu dans le vif du sujet.
Ode à mon cul. J'ai jamais été fan de mes fesses. Mouais. Elles sont à la fois grosses, puisque je le suis, mais un peu carrées et plates. Et bon, les fesses carrées, grasses et plates à la fois, c'est pas ce qu'on voit le plus en ce moment. #bootyday. Quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup photographiée nue. Rien à faire, je trouvais toujours mes fesses horribles. Mes amoureux, peu nombreux, n'ont jamais rien dit sur mes fesses. Pire, ils semblaient même les aimer. L'incompréhension. Et puis l'autre jour, ce matin en fait, je me suis dit « Je vais me filmer le cul pour voir à quoi il ressemble en vrai. » Ok, je fais quoi maintenant ? Je me suis juste filmée en train de marcher comme une teubée. J'espère que mes voisins ne m'ont pas vu faire 30 allers-retours en slip. Et puis donc j'ai regardé la vidéo. Non sans appréhension.
Et
Wouh ! Il bouge de ouf ! Badum, badum.
Mon corps se déhanche, cœur ensoleillé. J'ai le temps à aller.
Oh là là, putain, mais des fois il y a même du rond. En fait, ce qui change tout, c'est le mouvement. Ça gigote, ça tremblote, c'est vivant et un peu hypnotisant. Bref, voilà. Bon, on est loin des fesses parfaitement rondes et lisses d'Instagram, hein. C'est pas un cul de fou non plus. Pour conclure, n'hésitez pas à vous filmer le cul.
On envoie des nuits.
C'était un extrait de Nudes par Ize et Claire Laffu.
Vous avez également le récit témoignage de À volonté dont parlait Marion, bien évidemment. Je vous conseille également Moi en double par Navi et Audrey Lainé, publié chez Delcourt, qui est le récit de la perte de poids de Navi et qui raconte comment elle a perdu le poids d'une personne entière et comment ça provoque un choc en elle de perdre comme un autre humain. Et enfin, je vous propose d'aller découvrir Blast de Manu Larcenet, yes. Si c'est pas encore fait.
Ça, c'est trop bien.
Car dedans, nous pouvons découvrir Paul Zamancini, un personnage plutôt gros puisqu'il dit de lui-même « Je pèse lourd, des tonnes, alliage écrasant de l'art et d'espoir défait. Je bute sur chaque pierre du chemin. Je tombe et me relève encore et encore. Je pèse lourd, ancré sur le sol, écrasé de pesanteur. Atlas aberrant, je traîne le monde derrière moi. Je pèse lourd, pire qu'un cheval de trait, pire qu'un char d'assaut. Je pèse lourd et pourtant parfois... je vole.
C'est trop bien, Blast. Lisez Blast.
Ce qui est génial, surtout avec ce personnage-là, pour la question qui nous intéresse, c'est que bah, il est gros et c'est pas du tout caché, mais ce n'est pas quelque chose qui le caractérise en tant que personnage en termes de ses valeurs. Et ça ne fait pas non plus, comment dire, ça ne cache pas non plus ce que lui réserve
son poids en termes de grossophobie. Voilà. Sinon, enfin, je vous conseille d'aller voir Hercule Poirot. On parle beaucoup de ce bouquin d'Agatha Christie, là, Ils étaient 10.
Ouais.
Bon, ouais. Ça a l'air chouette. Ça vous changera des Dursley et autres personnages gros qui en prennent plein la tronche. Donc si tu veux Marion, je te laisse continuer.
Ouais, du coup moi je voulais juste vous toucher deux ou trois mots sur « On n'en est pas grosse » de Gabriel Dédier aux éditions Goutte d'Or. À savoir que si vous êtes des feignasses de la lecture mais qu'il vous arrive quand même d'écouter « J'irai cracher sur vos ondes », vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous regarder le documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui est encore en ligne, qui s'appelle « On achève bien les gros », qui est une adaptation du livre de Gabriel Dédier. Après, moi, je trouve que le livre est vraiment bien. Il vaut vraiment le coup. Si vous avez vu le documentaire, lisez le livre. C'est dense, mais c'est très digeste. Haha, blague de bouffe. C'est du concret, c'est du réel, mais ça pousse gentiment, logiquement, vers du conceptuel. D'ailleurs, Virginie Despentes a dit « Ce livre m'impacte énormément ». Voilà. Ça, c'est pour le côté marketing. Mais même si ça va vers du conceptuel, n'allez pas penser qu'il s'agit d'un essai théorique à base de mots de quatre syllabes et de sociologie de recherche. Gabrielle Dédier, elle écrit d'abord à partir d'un matériau autobiographique. Et si elle cite parfois des études scientifiques pour étayer son propos, c'est d'abord sa propre expérience qui est à la base de son récit. Et c'est un récit, donc c'est vraiment, ça se lit vraiment bien. C'est bien ficelé, c'est rythmé. C'est une mosaïque qui est vraiment bien agencée. Donc c'est 10 chapitres qui sont répartis sur une centaine de pages. C'est vraiment court. Le style, il est fluide, il est concis. Et il y a une alternance comme ça de chapitres qui sont très autobiographiques et des chapitres qui vont être plus analytiques. mais qui reste toujours lié à un jeu qui est très concerné par le problème et donc très bien informé. L'histoire de ce livre, elle se base surtout sur une enquête que Gabrielle a décidé de faire en se faisant passer pour... pas se faire passer pour une grosse puisqu'elle l'est, mais se faire passer pour une grosse qui cherche à subir une opération de réduction de la taille de l'estomac. Une opération assez barbare hein, quand on y pense et qu'on lit le livre. Parce que il s'agit quand même de vous amputer d'une partie d'un organe qui est sain et qui n'a aucun problème dans le but de vous faire perdre du poids pour que ça aille mieux. Mais en fait, spoiler, ça ne va pas mieux après. Et voilà, ce qu'elle pointe du doigt finalement, Gabrielle Lévy, à travers son livre, c'est qu'on on adopte tous des comportements défensifs, des mécanismes addictifs qui nous détruisent, mais qui sont aussi des réponses à l'environnement dysfonctionnel dans lequel on baigne. Parce que oui, en fait, la société, elle nous impose l'idéal d'un corps parfait, d'un moi idéal qu'on ne peut jamais atteindre, en fait. Et finalement, le livre, il va pointer du doigt cette croyance à laquelle beaucoup s'accrochent, hein, ce mythe de la liberté où on serait chacun individuellement responsable de notre parcours, de notre poids, donc via des choix personnels, et que finalement, ce que nous sommes n'est que le résultat de notre volonté. Et c'est un mythe sur lequel le néolibéralisme, il va prospérer, il va culpabiliser chacun d'entre nous de ne pas arriver à réaliser... être l'entrepreneur de soi-même, en fait. Et en fait, la liberté, c'est pas une absence de contraintes, c'est pas l'existence d'une volonté qui s'autodéterminerait librement, et du coup, juste par choix et par volonté, on pourrait être mince et beau et riche, hein, parce que finalement, c'est ça, les pauvres aussi, ils sont un peu responsables de leur pauvreté. Et non, en fait, la liberté serait plutôt la connaissance des causes qui nous déterminent, parce que gros, comme tu l'as dit, c'est génétiquement déterminé, c'est socialement déterminé, c'est psychologiquement déterminé, tout ça. Enfin, il y a énormément d'influences qui ne sont pas du ressort de notre volonté. Et finalement, ce que Gabrielle Dédier elle fait, c'est aussi une réflexion sur le privilège, sur la norme de manière générale au sein de la société. C'est pour ça que je trouve que par rapport à la BD, son livre, il apporte quelque chose de plus, parce qu'il réfléchit à l'origine de l'obésité, il réfléchit aux causes de manière générale. Et du coup, on ne va pas être simplement dans une évocation des symptômes et du coup, dans la position de victime. Elle va reprendre le pouvoir sur ce qu'elle vit et comment elle a envie de lutter contre ça. Moi, je trouve qu'il y a aussi une grosse inégalité de genre et une grosse inégalité de classe qu'il faut bien souligner. Tu t'en as parlé sur le pourcentage de femmes qui recourent à l'opération. C'est quand même assez net quand on passe à 85%. l'obésité chez les hommes est quand même beaucoup moins vue de manière négative. Tu as parlé de Blast, j'aurais voulu en parler aussi, mais je préfère que vous alliez le lire en vrai. C'est vraiment une bonne BD. Voilà, moi je vais m'arrêter là. J'avais envie de déblatérer pendant une heure parce que le livre de Gabrielle, il est vraiment bien. Je vais juste me contenter de vous en lire un petit extrait. C'est sur son rapport à la nourriture. Elle nous dit « Longtemps, j'ai refusé que l'on me voie manger. Je m'interdis de m'installer avec mon plateau au restaurant universitaire ou de m'acheter un cornet de marron chaud l'hiver, essentiellement par crainte de remarques désobligeantes. Comme celle lâchée devant moi, bien fort, par une maman à son fils qui réclamait un dessert au restaurant. « Dis mon chéri, tu ne veux quand même pas ressembler à la dame ?» J'éprouve du plaisir quand on me demande si j'ai mangé et que je réponds non, comme si manger était un signe de faiblesse. À la fac, je prétendais ne jamais avoir le temps de déjeuner. Quand j'avais vraiment faim, je compensais mon manque énergétique en diluant discrètement un sucre ou deux dans un verre d'eau. Et dès que j'arrivais chez moi, je m'envoyais une baguette au Nutella avant d'enchaîner avec le repas du soir. Cette overdose de nourriture me torturait. Je digérais mal, je dormais mal. Parfois, quand on m'invitait à dîner, j'avalais au préalable un premier repas pour éviter de me servir à nouveau devant les convives. Quand on se rend compte qu'il est plus simple de parler de sexe ou de poils pubiens que de nourriture, on met le doigt sur un problème. Pourquoi avoir honte de signaler qu'on aime manger? Pourquoi ne pas assumer d'être gourmande? Pourquoi ne pas accepter de pouvoir avoir une fringale? Je suis capable de boire des litres d'alcool aux soirées et j'ai honte quand je prends une poignée de cacahuètes. En lisant Beauté fatale de Mona Chollet, j'ai mieux compris pourquoi il était si dur pour une femme d'avoir un rapport serein à la nourriture. À l'ère victorienne déjà, toute représentation d'une femme en train de manger était bannie, explique-t-elle, citant Suzanne Bordeaux. Celle-ci raconte d'ailleurs que si les hommes boulimiques mangent en public, ce n'est jamais le cas de leurs équivalents féminins. L'appétit féminin suscite la peur et la répulsion. Une femme est censée picorer, remplir modérément son assiette, éviter de se resservir. Il est inconcevable qu'elle se laisse aller sans retenue au plaisir de la chair, écrit Mona Chollet. et de citer de nouveau Suzanne Bordeaux qui prend l'exemple des publicités, dans lesquelles la femme prépare la nourriture pour les autres, mange des produits allégés, idéalement des yaourts qui facilitent le transit. Si elle mange un aliment plus calorique, elle le fera de façon sexuelle, en croquant une glace par exemple. Allez-vous construire un rapport normal à l'alimentation quand vous baignez dans ces images ? Voilà, donc je pense que finalement, ce que ce passage il nous permet de reconnaître, c'est que l'obésité et l'anorexie sont finalement le revers de la même médaille normative. Notre imaginaire, notre représentation du corps, il n'est pas entièrement le nôtre, il est déterminé pour une bonne part par la culture, par la société dans laquelle on évolue. Et la société dans laquelle on évolue, elle nous fait clairement comprendre que la norme, c'est d'être mince, c'est d'être blanc, c'est d'être hétéro, c'est d'être riche aussi, si on
et
peut.
Et valide, bien entendu.
Et valide, voilà. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre parce qu'il m'a rappelé que ce qui fait bouger la norme, c'est la marge, en fait. Il n'y a pas le choix, c'est la marge qui fait bouger la norme. Et parce que la norme, elle fait que se reproduire dans son bain d'autosatisfaction béate et narcissique, quoi. Donc soyez heureux d'être dans la marge, on fera bouger la norme. C'est tout pour moi.
Merci Marion. Au cours de cette émission, vous avez pu vous déhancher et kiffer les sons de Lizzo, Good As Hell, Nudes de Claire Laffut et Iso, et enfin Juice de Lizzo, parce qu'elle est cool. Merci et à bientôt sur Syllabe.